9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS, à votre santé, on va parler d'éducation ce matin. Steve est avec nous, bonjour Steve.
Salut, salam, shalom, Philippe.
Ah, j'ai cru que vous alliez rajouter quelque chose.
Rien du tout. Justement,
il y avait cette petite respiration.
Il y avait un fumé qui laissait présager un ikigai ou un bomboclat.
Et non.
Mais non.
Bien.
Trop facile, trop prévisible.
Spécialiste en chirurgie esthétique des émotions.
Exactement.
Et auteur de Karma Sutra.
Tout à fait. Et qui d'ailleurs est, je le précise, il en reste plus. Ceux qui veulent la version collector.
Votre modestie,
il en reste 300. Ouais.
Ah oui, 300, ouais.
300, voilà. Comme les 300.
Bon, enfin, s'il y en avait que 500 en vente.
Non, il y en avait 15 000 à peu près, je crois. Voilà.
Jean-Paul Brighelli est avec nous et il en a vendu largement plus de 15 000 de son livre. Bonjour, Jean-Paul.
Bonjour, mais on va pas faire concours de quéquettes tout de suite.
Deux. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce petit sobriquet, là.
Ah, vous allez voir,
oui,
ça.
C'est parce que vous
nous, on dise gag ici.
Pas né encore à cette époque.
Voilà. Non, c'est ça. Nous, on dise gag ici. Vous êtes enseignant essayiste, 45 ans d'enseignement et presque 50 ans d'éducation nationale.
Oui.
C'est bien pour vous, ça ?
Oui, mais je ne m'excuse pas, je me suis régalé.
Vous avez passé 45 ans de votre vie à enseigner, le plus souvent dans des quartiers déshérités. Et ces dernières années, vous étiez dans des prépas Sciences Po. En quoi ça consistait ?
Entre autres, dans des prépas Sciences Po, j'étais dans des prépas tout court et j'avais spécifiquement une prépa Sciences Po au lycée Thiers à Marseille, qu'on appelle la SPIEP, qui recrute, alors c'est très précis, sur les trois lycées ZEP de Marseille, à savoir Victor Hugo, Saint-Exupéry, Diderot. Tous les trois issus de quartiers, pas déshérités, ils sont des ghettos,
ouais.
Il faut appeler les choses par leur nom, dont j'avais 80 à 90% d'élèves d'origine étrangère, le plus souvent maghrébine, en face. L'idée, c'était de les prendre à la sortie du bac et en 9 mois, de leur donner ce à quoi ils n'avaient pas eu droit pendant 15 ans d'enseignement.
Mmh.
Et de les monter dans les concours des 6 IEP de province. Mmh. Ce qu'ils réussissaient à 50%, ce qui est un score considérable.
Mmh. D'accord. Et comment vous les prépariez ?
Eh bien, on leur donnait la culture générale, des langues, de la sociologie, de la philosophie, etc., de l'économie, c'est-à-dire tout.
D'accord, mais est-ce que vous avez un truc en plus en tant que coach, par exemple, vous ? Un truc.
Par exemple, il y avait il préparait aussi un autre concours qui était le concours de Kedge Business School à Marseille, où là, il faut savoir se vendre. Et je leur apprenais à se vendre.
Et en se vend comment ?
En faisant rire le jury.
Il y a un passage là-dessus dans le livre qui est magnifique. Vous dites sur la partie de Yael Brinbaum a donc eu l'idée de scruter les résultats scolaires de ces populations spécifiquement issues de l'immigration et de les comparer entre eux avec les résultats des Français de souche. Mais oui, il y en a sur l'ensemble du cursus et pas seulement au niveau du bac. Et là, vous dites que statistiquement, en fait, les chercheurs ont analysé les résultats de 30 000 élèves sur la période de 2007 à 2016 et la totalité de l'étude publiée sous l'égide du ministère de l'Éducation est donc disponible. Et qu'en tête, on a les Asiatiques devant les Français d'origine, puis l'Afrique subsaharienne, puis le Portugal, le Maghreb. Et on a des chiffres hallucinants, en fait. 84% des petites Africaines réussissent contre 61% de leurs homologues. Ces chiffres, ils sont publiés nulle part, en fait. On les voit nulle part, à part votre livre.
Bien sûr, ce sont des statistiques.
Parce que là, si je arrête de lire, mais c'est affolant, en fait, les chiffres.
Ce sont des stats officielles du ministère.
Ouais.
Voilà. Et qui courent, d'ailleurs, depuis plusieurs années. Il y a des chercheurs qui se sont intéressés, par exemple, aux différences garçons-filles à un niveau national.
Bien sûr.
Et sachez-le, les filles dépassent les garçons partout. Mais absolument partout. Et alors, en ce qui concernait...
Alors, juste quand on dit ça, il faut faire toujours après, il faut rajouter « bomboclat !» comme ça, c'est très important.
Dans la classe que j'avais,
exactement.
Les filles réussissaient bien. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elles rêvaient de se barrer.
Pouf, énorme.
Elles étaient à Marseille, et leur objectif, c'était de réussir, par exemple, Sciences Po Lille. Alors d'abord, c'est bien Sciences Po Lille, parce qu'il y a l'école de journalisme qui est couplée avec Sciences Po.
Il y a l'ESJ Lille, hein, qui est mythique, notamment pour les métiers de la radio.
Il y a Paris, Bruxelles, Londres à une heure de distance, mais c'était surtout loin du quartier.
Et pas,
c'est ouais. Ça.
Donc la misère permet de réussir.
La volonté. Alors ce qui est curieux...
La misère couplée à la volonté.
C'est curieux, ça, c'est à vous de me dire. Les filles ont un sentiment plus fort de la misère et elles ont plus d'ambition que les garçons.
Donc la misère couplée à la volonté permet de réussir.
Voilà.
Magnifique.
Mais
avec en plus quand même du travail.
Ah, évidemment, la volonté, le travail et la misère couplés permettent de créer dans certains contextes de la réussite.
Et si on va plus loin dans les chiffres des filles, ce sont les filles d'origine asiatique
qui réussissent le mieux.
Tout à fait.
De très loin, de très très loin.
Oui, c'est d'ailleurs dans le Figaro, elle tombe de sa chaise, la fille Marie-Estelle Pêche, et à ce qui paraît tomber de sa chaise avec une fracture du coccyx, quand elle a découvert que les filles d'origine asiatique se démarquent par leur surréussite.
Elle est plus au Figaro, elle est à Marianne maintenant.
Du fait du bassin, parce qu'elle pouvait plus monter les escaliers, selon la légende, voilà, bien sûr. Alors, le livre, il commence très très fort. Vous tirez à balles traçantes de calibre 12, si je ne m'abuse, et vous reprenez...
56.
Voilà, exactement, de la
calache.
La calache, directement. Et vous reprenez des...
À Marseille, il y en a l'habitude de la calache.
Évidemment, je ne voulais pas faire référence à ça pour ne pas entrer dans les stéréotypes, mais puisque vous le dites. Aujourd'hui, l'école est morte, l'éducation nationale décédée. Ça commence immédiatement sur les chapeaux de roue, dites-moi.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est un constat.
D'accord.
Quand vous faites une autopsie, vous commencez par constater que la personne que vous allez découper est bien morte.
Tout à fait.
Vous savez, autrefois, on leur mordait le gros orteil pour vérifier qu'ils étaient morts. D'où l'appellation croque-mort. Bon, mais c'est sérieux. Actuellement, on a des moyens un peu plus raffinés.
C'est fétichiste aujourd'hui, on appelle ça un peu, non? Tout ce qui est tout touche au pied et tout ça, non?
Autrefois, on disait faire petit salé, vous savez. Non, mais c'est sérieux. C'est mon autre.
Jean-Paul, quand je vous rapproche le micro, faut pas que vous vous reculiez.
Non, je me recule pas.
Voilà. C'est pour qu'on vous entende.
Mais bien sûr. Si quand j'avance, tu recules.
Ah, vous m'avez perdu, Jean-Paul, là. Franchement. Bien. Vous voyez, 50 ans d'éducation nationale.
Non, sur l'école est morte et l'éducation nationale est décédée sur les Maccabées.
Alors, l'école est morte.
Ouais.
L'école telle qu'on l'avait imaginée. Je dis bien telle qu'on l'avait imaginée.
Qui l'a imaginée?
La Troisième République, essentiellement.
Okay.
La Troisième République, ça...
Dans les années
1880.
Ok.
1880, l'époque de, vous savez, ce qu'on appelait les hussards noirs.
Tout à fait.
Ceux qui ont préparé, en fait, la revanche de la guerre de 1870. avec ce truc enthousiasmant qui s'appelait 14-18.
Mais eux, ils ont préparé quoi comme école? Parce qu'après, je vais essayer d'amener les auditeurs
à... Ils ont préparé une école. Alors, ils partaient de zéro.
From scratch.
80% de la France qui ne savait ni lire ni écrire et qui, de surcroît, ne parlait pas français.
En quelle année?
On est en 1880, 85, etc.
Donc, il y a 200 ans, personne ne savait lire et écrire?
Très peu de gens.
Très peu.
Très, très peu de gens.
Ok.
L'utilisation du français courant début 19e, c'est 100 000 personnes.
Waouh!
Le bac, ça date de 1802 ou 1803, c'est Napoléon, ça concerne à l'époque 1500 personnes.
D'accord, ok.
Vous imaginez, ce sont des chiffres. On reviendra éventuellement sur ce que c'est que baccalauréat. C'est-à-dire, mais bon, les gens qui actuellement croient avoir, enfin se félicitent d'avoir le bac, qu'est-ce qu'ils auraient fait en 1802? Qu'est-ce qu'ils auraient fait même en 1960?
Donc ça, c'est l'école, ils ont imaginé ça,
On a imaginé ça, et ça a bien marché pendant à peu près, pas tout à fait un siècle.
Ok. Et ensuite, il y a eu...
On était à l'époque, non, il faut quand même, moi je suis un marxiste, on était à l'époque du capitalisme standard, un peu patriarcal, là, qui voulait des ouvriers qui comprennent ce qu'ils faisaient, qui soient capables d'ailleurs de progresser, qui comprennent les ordres qu'on leur donnait, etc.
Donc l'école était créée.
L'école était créée.
Pour fabriquer des ouvriers.
Pour fabriquer la France telle qu'elle était en train de se régénérer.
Donc des paysans à la ville,
des paysans,
des mains d'œuvre.
Qui quittaient la campagne et qui allaient se former sérieusement. Bon, ça a bien marché jusque dans l'après-guerre. On va dire jusqu'à la génération du baby-boom. D'où le fossé extraordinaire qu'il y a actuellement entre les papy-boomers, si je peux dire.
Et les générations Z. Z, là, pire, ouais.
Ok, boomer. Ouais. Ok, boomer, si on réfléchit bien, ça veut dire... Ouais, j'ai compris, moi je suis très très con, et toi tu étais très intelligent, mais je t'emmerde.
Ok.
Voilà, c'est ça l'idée. Mais tu peux dire ça tant que tu veux, ça t'empêche pas d'être petit con.
Ok, d'accord. Donc ça, c'était l'école avant. Et
ça,
après,
c'est l'école avant.
Donc après, il y a eu donc la réforme. Il y a eu plein de choses, mais il y a eu la réforme René Haby.
Alors,
avec les maths modernes, où on s'est dit, on va former 10% d'élite et 80% de crétins, et c'est très bien comme ça.
Et 80% de consommateurs.
De consommateurs.
Et consommateurs, vous avez remarqué, c'est un mot qui commence mal.
Très mal.
Voilà. Ouais. L'idée générale, c'est qu'on n'avait pas besoin de surformer des gens qui, de toute façon, feraient au mieux des tâches répétitives. Mais on savait déjà qu'en pratique, hein, ils n'auraient pas de boulot. En pratique, hein, si vous regardez, ça correspond à la, l'invention du RMI, du RSA, bientôt du salaire universel, du maniement de la télécommande dans son canapé, de la pizza surgelée et de Uber Eats. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on a fabriqué un monde très précis, qui est un monde de surconsommation de produits dégueulasses, hein, en général. Bon, et on garde 10% prétendument d'élite. Et c'est là que ça coince véritablement. Parce que ces élites-là sont en fait la reproduction des élites qui sont déjà au pouvoir. Et je peux vous dire une chose, là c'est 45 ans d'expérience, c'est que le bon élève n'est pas forcément enfant de bon élève. Voilà. Il y a des bons élèves dans tous les milieux, dans toutes origines, avec des parents qui parlent, qui ne parlent pas français, etc. Le bon élève est quelqu'un, d'abord, qui souvent a un don, véritablement, et ça, ça reste très mystérieux, mais qui surtout s'est pris en main. Donc, ces bons élèves-là, la société actuelle, ce que j'appelle la société, on va dire, néolibérale, qui se met en place dans les années 70, hein, à peu près, et qui est définitivement mise en place par Mitterrand à partir de 1983, le virage de la rigueur, vous savez, comme on dit, cette société-là ne veut pas que les enfants qui arrivent de nulle part viennent la titiller.
On va expliquer tout ça pour ceux qui n'étaient pas nés, la fabrique du crétin. 17 ans après la première édition, vous revenez avec une nouvelle édition, déjà 100 000 exemplaires. Et vous êtes notre invité Jean-Paul Brighelli jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, nous parlons d'éducation ce matin avec Jean-Paul Brighelli qui est avec nous, auteur d'un best-seller qui s'appelle La fabrique du crétin. Pourquoi crétin et pas ignare ?
Alors, dans crétin, il y a un côté affectif. Vous savez, votre maman vous a jamais dit « mais qu'il est crétin, ce garçon ». Et là-dedans, il y a la volonté, en quelque sorte, de vous ramener au fond. L'espérance que c'est encore possible. Ignare, hein, crétin des Alpes, gros connard, c'est du définitif, là, vous voyez. Dans le crétin...
On peut en faire quelque chose.
Mon boulot, c'est d'en faire quand même quelque chose. Mon boulot, c'était... J'ai eu des élèves qui étaient... qui arrivait dans des états proches de l'Ohio, comme dit Isabelle Adjani, mais et qu'il fallait remonter. Hein, 10 ans au lycée Tarteret à Corbeil-Essonne, j'ai eu des cas intéressants. Mais l'idée même, c'est que le boulot d'un prof, c'est d'amener chaque élève au plus haut de ses capacités. Et que ses capacités, il ne les connaît pas lui-même, 9 fois sur 10. Il faut les faire émerger. Après... Ne me faites pas dire ce que je dis pas. Il y a parfois des élèves, vous pouvez les bombarder pendant 100 000 ans d'un savoir, ils bougeront jamais, hein, parce qu'ils ont un intellect en chamallow présucé. Mais en général...
Isabelle Adjani, celle-là aussi, ou non, c'était quelqu'un d'autre ?
On peut toujours en faire quelque chose. Et on peut les amener à avoir... plus d'ambition que ce que leurs parents ont pour eux, plus d'ambition même que ce qu'ils ont eux-mêmes pour eux.
Je voulais juste noter que votre livre est très politiquement incorrect dans la France de 2022. Ça pouvait passer il y a 17 ans, aujourd'hui, post-MeToo et en pleine théorie des genres...
Vous savez qu'entre MeToo, la théorie des genres et le woke, je les emmerde profondément quand même.
Et Philippe, j'en attendais pas moins de notre invité... qu'on a mis longtemps à voir et que je prends plaisir à accueillir.
Voilà. Non, quand vous ne me regardez pas comme ça, je vous ai rien fait. Je relève que votre livre n'est pas politiquement correct. Mais
moi, je trouve qu'il est...
Si on fait un bouquin politiquement correct, on ne fait pas de bouquin. les gens qui écrivent pour écrire politiquement correct, je sais pas moi, Virginie Despentes, Édouard Louis, enfin toute la lie de la littérature,
toute la actuelle, clique, quoi. Ouais.
La clique de Saint-Germain-des-Prés, c'est pas de la littérature, c'est pas intéressant. Ça devrait même pas être imprimé. Le papier devrait être directement recyclé en PQ.
L'innumérisme.
Oui.
Parce que là, on est dans...
On est chez les matheux.
Ouais, on y va, là. On va dans les maths. L'innumérisme, cette incapacité...
Vous avez été traumatisé par les maths modernes quand vous étiez petit.
Moi ?
Oui.
Pas vraiment, non. J'ai compris...
Vous étiez trop petit.
Ouais, non, ça m'a pas effrayé, les maths. C'est l'école, en général, pour la petite histoire, pour beaucoup de gens la connaissent, en fait. J'étais en cours d'histoire-géographie. Et j'ai été viré un an. Et comme elle faisait éducation civique, elle m'a aussi viré d'éducation civique parce que ce que je disais n'appartenait pas au canon officiel de l'école. Donc j'avais pas le droit de le dire, en fait. Voilà.
Bon, on va pas le recommencer maintenant, si vous voulez.
Tout à fait.
Si je vous prends en psychanalyse, ça va être long et très cher.
Mais l'innumérisme, cette incapacité à comprendre les chiffres et plus largement à élaborer un raisonnement scientifique, ça touche beaucoup de monde, c'est quoi ?
On n'a pas besoin de savants. On n'a pas besoin de beaucoup de savants.
Et donc ?
Donc c'est pas la peine de leur. Alors, il y a plusieurs choses. Au moment où on a bouleversé l'école, on a introduit des sciences nouvelles, ou du moins une nouvelle approche.
C'était sous Giscard, on va dire.
C'était en gros sous Giscard.
Vous dites l'an 1, c'est
commence,
Giscard.
Ça commence juste avant 68. 68 n'a même pas servi de détonateur là-dessus. C'était déjà en place. Et ça se met en place au moment où Giscard arrive au pouvoir. Il y a un temps de latence hein, sous Pompidou, mais c'est le temps de se muscler. Hein. Les maths modernes, l'idée, c'était que... Alors, qu'on soit bien d'accord, hein, plus personne ne sait ce que c'est. Ce sont des mathématiques de très haut niveau, extraordinairement intéressantes, à Bac plus 8.
Ok.
Ils ont eu l'idée de le faire à Bac moins 15. Bon,
c'est mais la pourquoi c'est ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi...
Alors c'est très simple, c'est de façon à ce que les parents ne puissent plus jamais aider les enfants.
Pourquoi ?
Pour égaliser les conditions.
Parce que
mais égaliser les conditions comme ça, c'est forcément égaliser par en bas.
Par le bas.
C'est-à-dire que, de la même manière, par exemple, en français, on s'est mis à faire de la linguistique. Alors, la linguistique transformationnelle, vachement intéressante, à Bac plus 8, pareil. Des systèmes de tableaux, de branches, d'arbres génétiques, etc. Mais c'est incompréhensible par des parents qui en étaient restés à sujet, verbe, complément. Au mieux. Bon, donc on égalisait, mais on égalisait par le bas pour une raison simple, c'est que les enseignants qui enseignaient ça étaient totalement incapables de l'enseigner.
C'était trop technique, c'est ça ?
C'était beaucoup trop technique. De la même manière, on a remodelé complètement les programmes d'histoire-géographie. On faisait jusque-là de l'histoire chronologique. Événementiel, des règnes, des batailles, des grands événements, etc. On s'est mis à faire de ce qu'on appelle l'histoire des annales, qui avait commencé avec Marc Bloch un peu avant-guerre, etc. Donc on prenait des tranches très précises, le costume paysan vers 1350. Vous voyez, c'est absolument passionnant quand vous faites une thèse sur le sujet, Bac plus 8, toujours. Hein. Mais à Bac moins 15, on est un peu perdu. Puis surtout, actuellement, les instituteurs, professeurs des écoles qui enseignent, n'ont jamais fait d'histoire, ni de maths d'ailleurs, ni de français. Ils sortent pour la plupart de sociaux et de psycho. Bon, donc, ça je peux vous assurer, parce que j'ai eu les confidences d'un inspecteur primaire qui était allé voir une école. Dans l'école en question, du CP au CM2, chaque année, en histoire, ils étudiaient les hommes préhistoriques.
Et on que a ça. Tous étudié les hommes préhistoriques, hein, je crois.
Oui, oui. Mais le problème même, c'est que sur les hommes préhistoriques, c'est chatoyant, c'est joli. On ne sait pas grand-chose de bien précis. Ça permet éventuellement de sortir les élèves en sortie scolaire. Alors, à Paris, on les amène au musée de Saint-Germain-en-Laye. Mmh. Enfin, y a plein de choses comme ça. Parce que la sortie scolaire, c'est le nirvana. C'est le truc suprême. Rien qu'en venant ici, j'ai rencontré plein de classes qui se baladaient à droite, à gauche, dans Paris. Ça évite de faire du français des maths. Hein,
tout à fait.
De façon générale. Et plus personne n'a le moindre sens historique de demander à quelqu'un quand se situe Louis XIV. Et encore, Louis XIV, c'est gros. Demandez-lui quand se situe la guerre de 30 ans. Alors là, le brouillard est total.
Et vous le dites dans le livre, hein, moins d'heures de classe, Les heures de français ont diminué de 40% d'un demi-siècle, moins de postes d'enseignants, les enseignants sont moins formés dans leur discipline sous prétexte de les former à la pédagogie. On a une mutation de concours de recrutement, les notes inférieures à 12, c'est déconseillé donc maintenant les notes inférieures à 12 ?
Alors au bac, pour prendre ça.
Et suppression des redoublements aussi, c'est quoi tout ça là ?
Alors suppression des redoublements, c'était une raison économique, un redoublement ça coûte cher. Un élève en moyenne coûte 9000 euros par an.
Ok.
En moyenne, hein.
Ok.
Entre les petits, les moyens ou les grands, le prix varie, mais on va faire la moyenne 9000 euros par an. Si vous faites redoubler 10 élèves, c'est 90 000 euros. C'était la moyenne des redoublements dans les années 60. Il y avait un tiers des classes qui redoublaient. Puis personne ne se posait de
questions. C'est pas parce que ça sert à rien.
Non, c'est pas parce que ça sert à rien. Parce que le problème même, c'est que
ça coûte de l'argent.
Extrêmement utile, mais c'est surtout que ça coûte du fric.
Donc, comment on fait pour ne plus faire redoubler les gens ? On descend la moyenne, on descend le niveau, on fait comment ?
On dit ah ben de toute façon, il apprendra ça l'année prochaine.
Et on le fait passer.
Et on passe le bâton merdeux aux collègues de l'année.
Le bâton merdeux, c'est un terme technique ça en éducation nationale.
Oui, c'est un truc très particulier okay, qu'on apprend dans les IUFM.
Mmh. Ok, parce que je n'avais pas accès à cette information.
Alors, les IUFM, c'est
Les UFM, c'est 1991, c'est Philippe Mérieux qui est le pape. Alors, il faut bien comprendre, les néolibéraux ont anéanti l'école avec un objectif libéral très précis, créer des consommateurs. Mais eux, c'était des politiques, ils connaissaient rien à l'éducation. Ils se sont appuyés sur des libertariens, en quelque sorte, qui arrivaient de l'extrême-gauche trotskiste, pour l'essentiel, ou religieuse. Qui leur ont fourni les instruments théoriques éducatifs pour ça. Un exemple, on ne parle plus des savoirs, on parle des compétences. Alors, vous n'avez plus de savoir, vous avez à la fois maintenant des savoir-faire, des savoir-être, etc.
Compétences, consommateurs. Oui. On est encore dans la même gamme chromatique.
Alors, comme il y en a pour tout le monde... La gauche, enfin c'est Giscard au départ, la gauche a surenchéri dans les années 80, et les compétences, c'est François Fillon.
D'accord, ok.
Qui a été ministre de l'Éducation et qui est le degré zéro du degré zéro de ministre de l'Éducation.
D'accord, voilà. Ok. Voilà, pour
mais
que les gens puissent
prend en général que des gens de degré zéro.
En ministre de l'Éducation.
Ministre de l'Éducation.
Pour être sûr qu'ils font quoi ? Qu'ils vont bien.
Pour être sûr qu'ils vont obéir à ce que les bureaux vont leur suggérer.
D'accord, ok.
Voilà. Le pouvoir, il est entre les mains de gens qui, eux, sont inamovibles, parce que ce sont des fonctionnaires, et qui sont là depuis parfois 20-30 ans.
Et vous dites, avec tout ça, que l'école n'a pas failli à sa mission.
Non, parce que sa mission, c'est pas de former des gens, c'est de former des consommateurs.
Et là, c'est écrit quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans un bureau qui dit... La mission de l'école, c'est pas d'élever et de tirer les élèves vers le haut, c'est de former des consommateurs.
Premièrement, vous cherchez protocole de Lisbonne, éducation.
Quelle année ?
1999-2000. Hein ? Et deuxièmement, vous regardez la réforme Jospin de 1989, le texte exact de la loi Jospin.
Ça, c'est l'an 2 de la mort de l'école.
C'est l'an 2 et puis c'est fini après, hein, parce que ce qu'on a actuellement, c'est juste la conséquence. Le grand truc, c'est l'élève et l'artisan de ses propres savoirs. Alors c'est une formule magique absolument extraordinaire.
J'ai pas compris, ça veut dire.
Eh ben oui, c'est pour ça, c'est une formule magique, c'est comme un abracadabra, vous pouvez pas comprendre. Bon, c'est-à-dire que le maître ne transmet rien, c'est l'élève qui trouve lui-même par osmose.
Waouh, génial.
C'est beau, hein.
Ouais, c'est...
Alors, ça existe. Blaise Pascal, dans les années 1650, hein, il avait 8 ans, avait retrouvé tout seul de tête les 12 premiers principes d'Euclide.
Ok.
Mais pas moi, et je crois pas vous.
Pas moi non plus, non.
Voilà,
peut-être après votre psychanalyse ou après...
Voilà, mais ça va prendre du temps. Et puis vous n'aurez pas 8 ans. vous voyez. Donc, s'imaginer que tous les enfants qui sont bons, tout le monde sait à quel point les enfants sont bons.
Ouais.
Ça aussi, on peut revenir derrière, parce que j'essaie d'être très clair dans le livre là-dessus. Un enfant, au départ, je le dis franchement aux parents qui nous écoutent, un enfant est tordu. Voilà, il peut être
c'est-à-dire
sérieusement tordu. Un instituteur, étymologiquement, c'est la racine qui donne tuteur en horticulture, et ça vient d'une racine latine qui est stare, qui veut dire se tenir droit. L'instituteur, c'est celui qui vous remet droit. On est au moins deux ici à avoir un certain âge, je ne parle pas du petit jeune au fond là. Combien de fois on a vu des instits passer derrière nous en nous mettant les mains sur les omoplates en disant tiens-toi droit ou marche droit.
Ouais,
ou,
mais les ostéopathes vous disent aujourd'hui que on nous a dit pendant des années qu'il fallait se tenir droit et que c'est pas vrai médicalement, ça sert à rien de se tenir droit.
Oui, oui, c'est absolument certain. Ça permet de rester penché, ce qui est bien pratique pour se faire.
Non,
non. Jean-Paul Brighelli. Après la pub, Philippe.
Et, oui. Et parfois c'est bon.
Après
aussi.
La pub, Philippe.
Vous voyez, pas sur Sud Radio ici, Jean-Paul Brighelli. La fabrique du crétin, nouveau sous-titre, vers l'apocalypse scolaire. Tiens, c'est justement les années Jospin. Aux éditions de l'Archipel vient de ressortir.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, Jean-Paul Brighelli est avec nous. Il a écrit La Fabrique du Crétin, nouvelle édition, nouveau sous-titre vers l'apocalypse scolaire aux éditions de l'Archipel. Vous expliquez que longtemps, le premier jour de la rentrée, plutôt que de demander de remplir une fiche de renseignement, vous récitiez une fable. Le corbeau est...
Je leur faisais réciter.
Ouais.
Et actuellement, je ne sais pas si on pourrait toujours, parce qu'il y en a de moins en moins qui l'ont apprise.
Et pourquoi vous dites que c'est une véritable masterclass de communication ?
Le corbeau et le renard ?
Ce passage livre, il est magnifique.
Ah, je veux dire, très franchement, vous ne l'avez pas lu. Hein,
de quoi ?
Le corbeau et le renard.
Si, je l'ai lu dans votre livre.
Regardez, le renard, le corbeau a le fromage dans la tête.
Alors
dans
déjà, de quoi on parle ?
Le renard le regarde, lui dit « Bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. » Très bien. Et la question que je posais quand je faisais ça en cours, c'est « Quels sont les mots qui manquent ?» Parce que quand vous analysez le texte de quelqu'un, bien sûr, il faut regarder ce qu'il dit, mais il faut regarder ce qu'il ne dit pas. Il faut entendre les mots qui sont occultés. Et les mots qui sont occultés, c'est « moi » et « fromage ». C'est-à-dire ce qui semble être au cœur de l'événement. Moyennant quoi, il reçoit le fromage. C'est ce qu'on appelle un énoncé totalement performatif. Je donne un exemple d'énoncé performatif. C'est ce qui vous est arrivé quand vous étiez enfant et que la fée a fait abracadabra et que vous avez été transformé en crapaud.
C'est vrai. Vous voyez, et je suis resté crapaud en plus.
Et voilà. C'est ce qui se passe lorsque Dieu dit que la lumière soit et crac, la lumière est. Ben, c'est ce qui se passe quand le renard parle et le corbeau ouvre le bec et le fromage tombe. Donc, c'était le premier truc qu'on apprenait, c'est dans les dissertations que vous ferez, le mot interdit, c'est « je ». Or, actuellement, si vous écoutez les gosses de tous les âges, hein, regardez sur Internet, il y a une surabondance de « je »,« je »,« moi »,« moi »,« je ». Mais qui tu es ? Qui tu es pour parler ? D'où parles-tu ? Quelle est ta compétence ? Pourquoi est-ce que j'honorerai ce que tu dis ? Et pourquoi ? Alors, le grand truc des enfants maintenant, c'est ça c'est votre avis, c'est pas le mien. Mais ton avis n'a aucune importance. Ton avis n'est pas un avis qualifié. Si moi je te dis que 1 plus 1 égale 2, il va falloir que tu te sortes les tripes pour me prouver que 1 plus 1 égale 3.
Vous voulez de l'élève passif en fait. Bouche ouverte, en train de dire amen à ce que vous dites.
C'est une question passive. Pythagore, qui quand même savait 2-3 trucs en mathématiques, interdisait à ses disciples de parler pendant 5 ans. Quand vous entrez à la franc-maçonnerie, vous vous rappelez, hein,
comment ça s'est passé quand vous êtes rentré à la franc-maçonnerie ?
C'est dans une semaine. Donc voilà, vous dirai quand j'y serai. C'est la semaine prochaine.
On vous interdit de prendre la parole pendant 1 an. Le seul pour lequel cette interdiction a été levée, c'est Voltaire, quand il a été initié à la franc-maçonnerie, parce qu'on a jugé que Voltaire avait fait la preuve qu'il savait quand même certaines petites choses. Pendant 1 an, on se tait, parce que pour le moment, on n'a rien à dire. L'élève, quand on demandait le silence en classe, et qu'on l'obtenait d'ailleurs autrefois, c'est parce que l'élève reconnaissait implicitement que, il n'avait rien à dire. Et sur le corbeau et le renard, pourtant c'est basique, hein, ils croient, c'est assez marrant, hein, dans une classe d'hippocagne, faire commencer par le corbeau et le renard et leur faire admettre qu'ils n'ont jamais rien compris, que c'est un cours non seulement de communication, mais que c'est un cours de manipulation. Et qu'on avait tout compris sur la manipulation de la communication au XVIIe siècle. Hein. La Fontaine, je le mets très très haut, à tout point de vue. Bon, moyennant quoi, ça les calme tout de suite, parce qu'ils se disent, mince, chacun de mes propos va être analysé, suranalysé, décortiqué, et on va me le jeter à la figure.
Et vous parlez aussi des livres qui sont choisis à l'école. Vous dites, je cite, « La lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés, qui en ont été les auteurs, et même une conversation étudiée en laquelle ils ne nous découvrent que les meilleurs de leurs pensées. » C'est Descartes que vous citez. Vous dites que c'est pas toujours le cas à l'école avec les livres qui sont choisis. Donc, il y a des livres qui sont choisis exprès pour crétiniser. C'est quoi, en fait?
Alors, il y a un point assez drôle. Depuis une vingtaine d'années, lorsque, en français, vous dites « Bon, vous achèterez telle œuvre », la question qui vient, c'est « Monsieur, c'est long ?» Parce que dès que ça dépasse 10 à 12 pages, le brouillard commence. Alors, pas pour tout le monde, parce que vous avez des gosses en même temps à qui leurs parents ont acheté Harry Potter in extenso, et Harry Potter in extenso, ça fait 3000 pages, à peu de choses près. Bon, ça les entraînera à lire Marcel Proust in extenso par la suite. Mais il faut bien comprendre
cet homme,
c'est que
s'accrocher, hein, Proust, hein.
Quand on est parent, acheter des écrans aux enfants plutôt que des livres, c'est une grossière erreur. Une très grossière erreur. Parce que les écrans seront toujours là. Mais si on ne prend pas l'habitude des livres avant, mettons, 10 ans, on aura beaucoup de mal à l'acquérir par la suite. Or, les classes dirigeantes, elles, sont gavées de livres, toutes sortes de livres. C'est à ça qu'ils se reconnaissent. L'une de mes têtes de turc sont ces ministres qui ont décidé de supprimer l'épreuve de culture générale à Sciences Po et à l'ENA. Parce que quand vous arriviez de nulle part, vous pouviez abstraitement apprendre des choses de culture générale et à l'écrit, ça passait. Mais c'est remplacé par un oral, et à l'oral, à la première phrase, on sait d'où vous arrivez. Voilà. On sait exactement que vous arrivez au choix de Seine-Saint-Denis ou du 7e arrondissement.
C'est
et
quoi,
moyennant quoi, on vous écoutera.
Au parler, au phrasé, à quoi?
Au parler, au phrasé, à la façon d'articuler, au choix du vocabulaire, aux références, à la façon d'avoir un demi-sourire sur la phrase, c'est-à-dire à toute cette maîtrise qui ne s'apprend finalement que de façon induite, hein, à travers les parents, à travers les amis.
Approche vicariante.
Voilà. Et contrairement à ce que racontait, comment s'appelait ce film où Daniel Auteuil donne des cours de rhétorique, il n'y a pas très longtemps là, à une jeune fille, la jeune fille en question continue dans le film à fréquenter ses copains, etc. Dans la réalité, ce que j'ai constaté, moi, dans la réalité, c'est qu'au moment où ces gosses qui sont nés dans des banlieues improbables ont accès à la culture, à un certain moment, ils s'éloignent de leurs amis, de leurs parents, etc. Moi, j'ai des élèves me disant « Ah, moi, je veux pas partir trop loin parce qu'il y a mon copain, etc. » Et au bout de 6 mois, ils n'avaient plus rien à dire aux copains.
Parce qu'intellectuellement, etc., ils avaient évolué.
Il y avait un gouffre qui s'était créé.
Avec via la lecture, via la culture, via tout ça.
Et il faut bien comprendre une chose, c'est que les gens qui vous disent « Oui, mais on peut faire de la concurrence, il y a des choses modernes, etc. » C'est de l'enfumage. Dans les années 60, le Parti communiste avait des cours du soir pour les militants. Et dans ces cours du soir, on apprenait la culture bourgeoise. Parce que Marx a été très clair là-dessus. Pour le moment, il n'y a qu'une culture qui est celle de la classe dominante. Quand on vous dit il y a la culture jeune, de l'enfumage, une façon de vendre de la musique, de vendre des images, etc. Mais à l'arrivée, on juge très vite si vous avez les bonnes références ou si vous ne les avez pas.
C'est de là que vient votre obstination à faire étudier les grands classiques de l'ambition comme Tartuffe, etc.
Oui. Alors, j'avais un programme que je m'étais fait moi-même. C'était Tartuffe, Maupassant, Bellamy, Balzac, le père Goriot. C'est-à-dire tous les grands classiques de l'ambition. Leur montrer comment, quand on est fils de personne, on peut arriver à monter très haut. Hein, Bellamy, c'est le fils d'un paysan des années 1860. Il faut imaginer ce que c'est un paysan normand de 1860. Il ne parle même pas français. Hein. Et il finit, il se marie à l'église de la Madeleine. Il arrive sur le parvis de l'église de la Madeleine. En face, alors je le dis pour les auditeurs de province qui ne connaissent pas forcément le Paris, en face, il y a l'Assemblée nationale. Et il a l'impression qu'il ne va avoir à faire qu'un saut pour passer du parvis de la Madeleine à celui du Palais Bourbon. Comme
rue Royale, et on prend le pont.
Voilà, on franchit la rue Royale, on franchit la place de la Concorde, on franchit la Seine, et cette espèce de salopard, parce que c'est un salopard, va devenir député, ministre.
Est-ce qu'il faut comprendre que, finalement, les bases qu'il faut apprendre à l'école sont immuables et intemporelles, et qu'il faut rester sur ces bases-là? Ou quand même, on pourrait adapter, bon, c'est bien, mon passant, mais on peut-être passer à autre chose, non? On pourrait avoir des bases plus actuelles.
Alors, ma spécialité, quand même, c'est la littérature. Hein. Je vous mets au défi de me dire ce qu'il a paru de fondamental depuis 1980, en français.
À part des pentes.
À part des pentes et Édouard Louis. Vous voyez ce que je veux dire? Ou Alice Coffin.
Mais voilà. Aujourd'hui, on va vous répondre
Non, il y a des périodes creuses. Il y a des périodes pleines. Par exemple, j'aurais adoré être petite souris dans les années 1755, me retrouver au café du Procope, qui existe toujours d'ailleurs, hein, rue de l'Ancienne Comédie, parce qu'au café du Procope, ce jour-là, il y avait Voltaire, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, etc. Rousseau est excusé, il était aux toilettes. Mais, parce qu'il avait une incontinence urinaire. Mais il y avait une conjonction d'esprit absolument extraordinaire. Où est-ce que je vais trouver ça? Si je vais dans un...
Rentre dans le cercle...
bar du quartier latin, je vais trouver Édouard Louis, BHL, etc. C'est-à-dire, bah, pas grand-chose, quoi.
Mais il y a un truc avec Fianso, Rentre dans le cercle, il y a à peu près le même niveau.
Oui,
c'est
voilà.
Un truc de rappeur.
C'est... Alors... Ce que je raconte là, les parents sont pas forcément au courant. Parce qu'ils voient le destin de leur enfant.
Ah là, ils vont le découvrir, je crois.
Voilà. Là, ils vont comprendre ce qu'on leur a fait.
Comprendre, oui, encore une fois.
Ensuite, les ministres même ne sont pas au courant.
Ah bon?
Les ministres ne sont pas du tout au courant. Je vais prendre un exemple.
Enfin, ils portent quand même des réformes. Vous prenez l'exemple de Ségolène Royal, qui a réformé suite à un rapport.
Ah oui, mais alors...
Quand vous dites que les ministres sont pas au courant, c'est certains ministres sont au courant.
Alors, je vais prendre un exemple précis. En 2015, Najat Vallaud-Belkacem et Manuel Valls descendent à Marseille et visitent le lycée Victor Hugo. Lycée de ZEP, etc. Bien. Et s'entretiennent avec des élèves. Et sont très contents. Ils ressortent en disant « On fait un travail magnifique, etc. » Alors, j'ai su... Parce qu'il se trouve que j'ai eu un témoin direct, que c'était trafiqué d'un bout à l'autre. On avait loué des plantes vertes pour égayer le lycée. On avait enfermé les profs, enfermés, dans la salle des profs pour qu'ils ne viennent pas perturber. Et on avait fait venir d'anciens élèves du lycée qui ont joué le rôle d'élèves de terminale, dont l'un des miens, c'est comme ça que j'ai connu le... de façon à poser des
rose.
Questions intelligentes... aux deux ministres qui sont repartis satisfaits.
Mais la presse locale, elle a pas enquêté là-dessus?
Non, la presse locale n'a pas enquêté. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que la Provence, qui appartenait à l'époque à un cacique du PS, enquête sur le passage de deux caciques du PS? Vous croyez dans un film américain des années 50 avec Humphrey Bogart dans le rôle du rédacteur en chef? Il faut revenir sur terre, mon cher. Hein. La presse, en moyenne, elle est aux ordres.
Et pour finir, quel conseil vous pouvez donner aux parents, finalement, qui sont obligés de mettre leurs enfants à l'école, parce que sinon on va en prison, à peu
Alors,
près.
Alors, premièrement, réfléchissez bien à l'endroit où vous le mettez. Je suis totalement... Enfin, l'une des propositions du livre, parce qu'il y a quand même...
Il y en a beaucoup.
beaucoup de propositions, c'est de détruire les collèges qui ont été construits à l'intérieur des ghettos sociaux.
Tout à fait.
Parce que c'est du ghetto scolaire à l'intérieur du ghetto et on n'en sortira jamais.
Enfin, il y a une carte scolaire quand même.
Quitte à faire du buzzing. Vous savez, comme aux États-Unis, ils le mettaient dans un bus et ils vont à trois quarts d'heure de là, etc. Après tout, je faisais ça quand j'étais gosse. J'habitais les quartiers nord de Marseille et je partais dans un lycée du centre. Bien, à 12 ans. Et ça d'un côté. Ensuite, se renseigner sur la façon dont on fait classe. Quelle méthode d'apprentissage de la lecture est utilisée en grande section de maternelle.
Ok.
Et troisièmement, quitte à investir un petit peu, regardez s'il y a, si vraiment le public ne vous satisfait pas, mais il y a du public satisfaisant, pas beaucoup, mais il y en a. Allez chercher du privé satisfaisant.
Magnifique.
Et la suite est dans votre livre. Voilà, la nouvelle version.
On conseille à tout le monde de le lire, c'est waouh, c'est du napalm, c'est du napalm mixé avec du C4 et.
Et des balles de 7,52.
De 7,52, traçantes, à tête perceuse, bien sûr.
La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire. On y est déjà, aux éditions de l'Archipel. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci Steve. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Et vous verrez l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM et sur la chaîne de By Steve. Très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.